17h, passé de 12 minutes sur Radio Campus Tours. Et c'est l'heure de sortir consacrée aujourd'hui à l'éducation aux médias. Alors, avant toute chose, rappelons que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé dimanche 4 mars un plan d'éducation aux médias en 3 parties. Une amplification sans précédent de l'action des associations et de l'engagement des journalistes qui font cette sensibilisation dans les écoles. Ce même déploiement au sein des bibliothèques, médiathèques et la création d'une plateforme commune des sociétés de l'audiovisuel public pour le décryptage de l'information et de l'éducation aux médias. Le budget alloué à l'éducation aux médias passera de 3 millions à 6 millions d'euros afin de soutenir les associations qui animent des ateliers sur ce thème dans les établissements scolaires et les médiathèques. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons un acteur local de l'éducation aux médias. Bonsoir Christophe Boutin.
Bonsoir.
Christophe Boutin, vous êtes journaliste, médiation lecteur et délégué presse à l'école pour la Nouvelle République, c'est bien ça ?
C'est le titre, oui.
Alors, justement, parce qu'un titre, c'est un titre, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste, en quoi consistent vos missions ?
Alors, la première mission, médiation lecteur, c'est tout ce qui concerne la gestion du courrier des lecteurs. Tous les gens qui souhaitent réagir dans les colonnes de la Nouvelle République et aussi sur le site internet, même si maintenant les commentaires n'y sont plus admis, mais il est possible de commenter les articles. Donc ça, c'est toute la gestion du courrier papier, des courriels, des avis, des envies de donner son opinion, et puis aussi de proposer des questions juridiques, consommation, santé, à partir desquelles mon collègue et moi, nous construisons des dossiers. Donc ça, c'est la partie, on va dire, interactivité. Pour ce qui est de l'éducation aux médias, ça constitue, on va dire, à peu près 20% de mon temps, et ça fait partie de l'héritage historique de ce qu'on a appelé l'ARPEJ, qui voulait dire Association Région Presse Éducation Jeunesse, qui est née dans les années 76-78 sous l'impulsion à l'époque de la Nouvelle République, de Ouest-France et de Sud-Ouest, où l'objectif était d'avoir un référent dans chaque rédaction pour pouvoir justement aller vers le monde éducatif, expliquer comment on faisait un journal, comment on construisait et comment on informait. Après, on a extrapolé aussi un petit peu sur comment on devenait journaliste. Donc l'idée, c'est expliquer les médias et les métiers qui font les médias.
Et alors, où est-ce que vous allez porter la bonne parole ? Dans quels établissements ?
C'est pas une bonne parole, c'est plutôt une parole illustrée. C'est d'expliquer un petit peu qu'on peut commencer par faire un journal dans son collège, dans son école primaire, dans son lycée, et que c'est un moyen de travailler en groupe, de réunir des envies, des individualités, des goûts, des expressions, et que c'est une micro-société et dans laquelle s'articulent toutes les matières quasiment qu'on peut retrouver au collège. C'est pour ça que un des projets du ministre que vous souleviez tout à l'heure, c'est justement de faire ce qu'on appelle le socle commun au collège et d'avoir justement un projet transversal avec la création d'un journal. Donc on intervient sur ces projets-là, mais pas seulement, aussi dans les carrefours des métiers, où curieusement, si on fait un sondage comme le fait la Croix chaque année et qu'on demande quel est le degré de confiance que vous accordiez aux médias et journalistes, ça tombe très bas. Par contre, quand vous allez dans les CIO et les carrefours des métiers, c'est un métier qui attire énormément. Donc il y a beaucoup de jeunes qui veulent savoir en quoi ça consiste. Donc c'est un des rôles du représentant presse à l'école. Et puis le dernier, c'est des interventions à la demande sur une thématique. Ça peut être la justice, les faits divers ou l'information locale, ou partir d'exemples et travailler un petit peu, notamment avec le sous-ensemble de l'éducation nationale qui s'appelle le CLEMI, qui est le centre de liaison et de formation éducation et médias, d'information, et de travailler avec ces enseignants pour justement expliquer aux autres enseignants comment monter des ateliers, travailler autour des médias, déjouer les fausses informations, faire la différence entre une publicité et une information et un public reportage. Donc donner les outils pour, on espère, développer l'esprit critique des jeunes et en faire des citoyens éclairés.
Et d'ailleurs, vous êtes aussi sur le web, je crois, puisque est-ce que c'est bien vous qui êtes en charge aussi de la page Facebook NR Jeune, je crois.
Alors, NR Jeune Express, oui, tout à fait. C'est un développement du dossier qui s'appelle Jeune Express, qui est sur le site Nouvelle République, qui fait une sélection des articles parus sur nos 5 départements concernant l'éducation, la jeunesse, l'orientation, et puis les portraits de jeunes qui peuvent être intéressants justement à leur redonner une deuxième vie en plus du papier et du web. Donc il y a le dossier sur le site web et la page Facebook, évidemment, puisque c'est aussi un moyen de toucher les jeunes et ceux qui s'intéressent à eux, notamment leurs parents.
Alors comment on devient un journaliste médiateur? Parce que j'imagine que vous avez commencé par être journaliste. À quel moment ça s'est présenté à vous, cette occasion de faire aussi ces interventions?
Ça a été une opportunité, à savoir que la personne qui s'occupait justement de ce relais arpège au sein de la Nouvelle République partait à la retraite. On me l'a proposé, je l'ai accepté. Je pense que j'avais déjà les prémices auparavant, avec un parcours professionnel à la Nouvelle République, mais pas seulement, dans d'autres quotidiens. Et puis aussi une formation un peu plurielle avec des implications dans le monde humanitaire. Donc tout ce qui était relations humaines pouvait faciliter les choses. Et puis ça m'intéressait de toute manière de travailler avec les jeunes et le milieu scolaire. Donc j'ai accepté la proposition, ou plutôt j'ai posé ma candidature et il n'y en avait qu'une, donc c'est celle qui a été reprise. Bon. Mais cela dit, je travaille avec tous mes collègues dans chaque département. Et dans chaque département, il y a des initiatives. Pendant la semaine de la presse à l'école qui a eu lieu la dernière semaine de mars notamment, j'interviens sur le plus souvent la Touraine, mais nos autres départements, l'Indre, le Loir-et-Cher, la Vienne et les Deux-Sèvres, les collègues sont aussi sollicités et interviennent dans les classes aussi.
Alors vous dites justement qu'il n'y avait qu'une candidature pour ce poste, avec une grande partie sur l'éducation aux médias. Alors justement, c'est peut-être une mission qui est un peu boudée parfois par certains confrères, parce qu'ils estiment que ce n'est pas du journalisme. Et vous, quel est votre point de vue sur cette question? Comment cette activité s'inscrit dans votre parcours de journaliste? Et quelle importance vous donnez-vous à l'éducation aux médias?
Alors, moi, j'y donne de l'importance, mes employeurs aussi, puisque chaque année, on reconduit encore le principe, sachant que de toute façon, ça doit s'articuler avec le temps de travail que j'évoquais tout à l'heure sur l'interactivité. Mais au sein de cette interactivité, j'ai le challenge de, chaque mois, organiser ce qu'on appelle les paroles de lycéens, donc d'animer un groupe de lycéens sur l'année scolaire pour pouvoir avoir des éclairages, des avis. Ce ne sont pas des articles à proprement parler d'un point de vue journalistique. Ce sont des avis de lycéens sur leur actualité à eux et sur l'actualité nationale et internationale. Et c'est déjà une préfiguration un petit peu de ce qu'on attend quand on est journaliste. Donc j'ai ce challenge de faire parler les jeunes et de leur donner l'accès à cette lisibilité. Il faut savoir quand même qu'un exemplaire de la Nouvelle République s'est tiré en moyenne à 160 000 exemplaires avec un taux de reprise de 3 personnes, donc ça fait multiplié par 3, quelques lecteurs qui peuvent justement donner un recul et une réponse au lycéen qui écrit. Et c'est quelque part une préfiguration, s'il a envie d'être journaliste. Ils ne le font pas tous, mais beaucoup l'ont fait ensuite, puisque j'anime cette rubrique depuis 6 ans. Donc c'était le petit complément par rapport à votre question.
Bien, merci. Je pense qu'on va déjà faire une première pause musicale. Le temps de reprendre notre souffle, et je propose que l'on écoute Hadouk Trio, Bal d'Amor.
Thank you.
Doug Trio sur Radio Campus Tour, vous écoutez, sortez. Nous parlons d'éducation aux médias et notre invité, c'est toujours Christophe Boutin, journaliste à La Nouvelle République. Alors Christophe Boutin, vous avez un peu botté en touche sur ma question de savoir si l'éducation aux médias c'est du journalisme ou pas.
Non, j'ai pas botté en touche, j'ai juste commencé par une parenthèse. Donc la parenthèse est fermée, après on peut en parler. Le journaliste est, je trouve, un des mieux placés pour parler d'éducation aux médias, enfin à ce qu'il pratique le plus souvent. Donc un des objectifs des nouveaux angles et de nouvelles ouvertures, etc., sur l'après-Charlie, puisque c'est à partir de là que ça a commencé, c'est justement de s'associer avec les enseignants, avec les enseignants spécialisés qui travaillent sur l'éducation aux médias, pour intervenir en milieu scolaire, pour aussi faire visiter un journal. Il faut savoir que nous sommes terrain de stage, notamment pour les personnels d'encadrement. Nous avons l'an passé accueilli un inspecteur pédagogique en art plastique, une principale adjointe, pour justement voir comment on fonctionne de l'intérieur en tant qu'entreprise un petit peu particulière. Donc l'idée qu'un journaliste s'associe à des enseignants pour parler d'éducation aux médias, au contraire, moi je trouve que c'est tout à fait légitime. Et il ne s'agit pas, puisque nous avons de plus en plus une charge de travail qui est densifié, et des effectifs qui diminuent. Donc on ne peut pas se multiplier sur ce terrain-là. Par contre, qu'il y en ait un ou deux qui soient un petit peu plus spécialisés sur ce domaine, ça paraît cohérent. Hélas, nos rédactions dans les quotidiens régionaux diminuent de plus en plus, et ça devient moins une priorité qu'auparavant.
J'en profite pour rappeler que l'éducation aux médias a été rendue obligatoire par la loi pour la refondation de l'école en 2013, voilà, l'éducation aux médias figure au programme des différents cycles depuis la rentrée 2016. Voilà, sa mise en œuvre dépend toujours, évidemment, hein, comme vous le soulignez, des moyens financiers mis à disposition, de la mobilisation des enseignants et de l'implication des divers médias et aussi de la disponibilité des journalistes. Donc du coup, j'aimerais aussi vous demander, à votre avis, qui est légitime pour faire de l'éducation aux médias ?
Dans les rédactions ?
dans les rédactions et au-delà.
Dans les rédactions, je pense que ça doit se faire sur le mode du volontariat ou, comme c'est le cas dans le mien, d'avoir un peu plus d'expérience. Et effectivement, j'ai appris sur le terrain scolaire. Il est tout à fait différent de se trouver face à une classe de 25 élèves plutôt que de réaliser une interview avec deux ou trois interlocuteurs. Donc ça, c'est à adapter et c'est à avoir, une aisance et aussi une expérience pour animer avec des enseignants, il faut encore, jamais tout seul, des groupes de collégiens, des ateliers journaux pour des lycéens, etc. Puisqu'on parle des lycéens, je rebondis sur ce que j'évoquais dans la parenthèse. Les lycéens de notre zone de diffusion sont les bienvenus pour participer à cette rubrique mensuelle qui paraît le dernier samedi de chaque mois. Il suffit d'envoyer sa candidature à christopheboutin@nrco.fr.
J'en profite pour dire qu'ils ont aussi le droit de faire en plus de la radio, hein, évidemment.
Mais oui, puisqu'ils aiment tellement ça qu'il y en a deux dans ce groupe qui font la radio à Radio Campus et qui animent l'émission HEP.
Tout à fait.
Je pense à Pauline et Julie.
On les salue au passage. Et quand même, je continue sur mon éducation aux médias. La ministre cite le Clémy. Elle parle des journalistes professionnels, mais semble oublier complètement les médias associatifs locaux, qui pourtant proposent partout en France des ateliers et depuis très longtemps. Alors à votre avis, quelle place on peut donner à ces médias-là, qui ne sont pas forcément des médias professionnels, mais où on trouve parfois des journalistes? Et pourquoi est-ce qu'ils semblent complètement oubliés?
Après, je pense que c'est une histoire d'étiquette, de valorisation. Et les pouvoirs publics sont beaucoup plus sensibles à des gens qui ont un passeport estampillé, journaliste, carte de presse, etc. Il peut y avoir effectivement des correspondants ou des associatifs qui ont une expérience suffisamment riche pour s'impliquer dans ce processus, mais ça, je pense que c'est au cas par cas à voir. Mais la porte peut leur être ouverte, mais ça, une fois encore, c'est l'éducation nationale.
D'ailleurs, on remarque aussi que la ministre ne cite pas non plus les structures qui ont l'agrément jeunesse et éducation populaire. Hein. C'est le cas, par exemple, de la Fédération des œuvres laïques ou même de Radio Campus Tours, hein, puisqu'on vient de l'avoir. Au passage, félicitations à nous-mêmes.
Félicitations à vous-même.
Voilà. Et donc, ce sont des acteurs éducatifs locaux et ils interviennent aussi parfois avec le Clémy. Et donc, pourquoi eux aussi sont oubliés?
Là, je pense que les Clémy ont une relative indépendance par académie. Hein. Donc, il y a des directives ministérielles. Ensuite, à chaque animateur académique de trouver les bons interlocuteurs. Si cet interlocuteur a une expérience associative et qu'il a des qualités de transmission, d'explication de ce qu'est un média, à lui de voir ou à elle de voir s'il peut justement intervenir. Hein. Mais là, c'est du relationnel direct.
Eh bien, bon courage alors.
Bon courage à vous.
Donc je reviens aussi sur le fait que le budget alloué à l'éducation aux médias passera de 3 millions à 6 millions d'euros et que ça permettra en partie de financer des interventions de jeunes volontaires en service civique. Alors sachant que la première motivation des jeunes à entrer en service civique, c'est quand même la recherche d'emploi infructueuse, quelle est à votre avis la pertinence de miser sur ce dispositif du service civique plutôt que d'investir sur la création de postes stables dédiés à l'éducation aux médias?
Là, je ne sais pas, je n'ai pas la lecture de la même lecture que vous de cet angle-là.
Mais tant mieux.
Les fonds ministériels ont été distribués. Il y en a notamment qui ont été donnés à ce qu'on appelle une mallette numérique Journal des lycées, hein, et qui permet de créer des lycées, des journaux dans les lycées avec l'appui de journalistes professionnels. Et je pense qu'un des gages de qualité, c'est aussi d'avoir des journalistes professionnels qui ont été formés, qui ont une expérience, etc. Il peut y avoir des associatifs qui aient ce profil-là, ils sont moins nombreux, mais une fois encore, ça c'est à apprécier au cas par cas.
Mais ça ne répond pas à l'idée de faire intervenir des jeunes en service civique.
Mais parmi les jeunes en service civique, vous allez trouver des jeunes qui sortent des écoles de journalisme.
C'est vrai.
Donc dans ce cas-là, pourquoi pas?
Mais du coup, pourquoi ne pas plutôt créer des postes? Des postes stables, plutôt que proposer le dispositif du service civique?
Des postes stables au sein de l'éducation nationale?
Au sein de l'éducation nationale ou dans des rédactions?
Non, dans des rédactions, ce n'est plus viable en termes d'effectifs personnels d'avoir quelqu'un de spécialisé uniquement là-dessus et qui aurait uniquement son temps consacré à expliquer comment on fait le journal. Une des vocations quand même de son emploi, c'est de faire marcher le journal avant d'expliquer comment il le fait. ça reste un petit peu de temps, encore une fois. Moi, j'ai 20% de mon temps à consacrer à ça. Et,
oui.
et on n'est plus que 4 ou 5 journaux à avoir cette liberté. Il y a beaucoup de journaux qui n'ont plus de référent parce qu'ils n'ont plus les moyens humains d'avoir quelqu'un de consacré expressément à cette activité-là.
Mais je pense que ce qui semble poser problème quand même, c'est de dire, même s'il n'y a pas de place pour embaucher des gens, ou enfin que ce n'est pas une activité à part entière dans un quotidien ou sur un autre média, de se dire, même si on a des jeunes gens qui sont diplômés d'école de journalisme, pourquoi les faire passer par le service civique plutôt que d'essayer, même au sein de l'éducation nationale, de créer des postes stables? C'est plus ça ma question. En fait, de dire,
la question, je pense que ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est au ministère.
Je vais les contacter alors.
Voilà.
Je vais leur demander. Mais voilà, je n'ai aucune réponse à ce sujet, et du coup...
Mais si vous faites le bilan aussi, nous, de toutes nos interventions scolaires, depuis 76 qu'on pratique cette activité-là, avec mes prédécesseurs aussi, de manière extrêmement rare, toutes nos interventions ont été faites bénévolement. Quand je dis bénévolement, c'est-à-dire que l'entreprise de presse détache quelqu'un sur son temps de travail pour qu'il intervienne, et l'éducation nationale ne finance absolument rien.
Pourtant, il y a aussi l'idée que...
Il y a une intervention d'un professionnel.
Mais avec cet argent, ce doublement du budget, finalement, est-ce que l'éducation aux médias, ça ne va pas devenir un marché, finalement un marché comme un autre?
Ça pourrait l'être.
Est-ce que ça ne l'est pas déjà?
Oui, il y a déjà des associations qui se sont constituées de professionnels, qui se sont regroupés et qui essayent justement de proposer des contenus. Il y en a une qui s'appelle Média Éducation, il y en a une autre qui est en liaison avec des journalistes du Monde pour proposer des contenus avec des interventions de professionnels, une fois encore. Donc des gens qui ont un passé, une expérience et une expertise.
Eh bien merci, quand même. Je pense qu'on va refaire une pause musicale.
Oh le quand même.
On va refaire une pause musicale, Christophe Boutin, et après nous parlerons de la résidence de journaliste. On va écouter... Francis Bébé, c'est parti.
Pande bana wende be yidi Babi se pande bana wende eboki Balangwe di pande bana weben madiba Balangwe di pande bana okwe di njalala Isa o Balangwe di pande bana wende be yidi Babi se pande bana wende eboki Di pande bana weben madiba Babi se pande bana okwe di njalala Bisa o Otitinika Bisa o Kusimana wa Pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Babi se pande bana wende mwiditi Balangwe di ne bana wende na misodi Babi se pande bana wende na bongo Babi se pande bana unalande songo Bisa o Otitinika Bisa o Usimana wa
vous écoutez toujours Radio Campus Tour. Nous écoutions Francis Bébé Bissao. Vous êtes toujours à l'écoute de Sortez. Et notre invité, c'est toujours Christophe Boutin, journaliste à La Nouvelle République. Alors, pour poursuivre sur notre thématique éducation aux médias, j'aimerais qu'on parle un peu de la résidence de journaliste. Donc en 2016, il y a une enveloppe budgétaire supplémentaire qui a été dégagée par le ministère de la Culture afin de financer un programme de résidence de journaliste. Donc ça reprend le modèle, peu ou prou, des résidences dans le domaine artistique et culturel, mais là c'est orienté vers l'éducation à l'information. Alors, est-ce que vous avez connaissance de certaines résidences de journalistes qui ont pu être mises en place dans notre région, Christophe Boutin ?
C'est tout récent. Par contre, moi, j'avais eu connaissance de la première, qui était celle de Valérie Rohard dans l'agglomération de Dunkerque, pendant, je crois que c'était 6 ou 8 mois, où l'objectif est de s'impliquer en tant que journaliste pour expliquer justement, faire de l'éducation aux médias, comment on fait un journal, de quoi il constitue l'information, et servir de relais pour que chacun s'approprie un peu plus ces manières de s'informer, que ce soit le numérique, le papier, vidéo, radio, etc. Donc il y a eu plusieurs appels lancés, je pense qu'ils font partie justement de cette enveloppe ministérielle qu'on évoquait tout à l'heure. Je sais qu'il y a eu des appels qui sont restés sans réponse. Ça ne m'étonne qu'à moitié par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la disponibilité. Et que pour pouvoir s'impliquer dans un tel projet, on va dire de 3 mois minimum, mais 6 mois la plupart du temps, il faut pouvoir se dégager. Et très souvent, on va tomber sur un pigiste indépendant parce que lui, il va dire, voilà, je vais me dégager sur mes contrats habituels et me positionner sur ce temps-là parce que quelque part, il est rémunéré, parce que c'est aussi une expérience enrichissante et intéressante. Et c'est aussi une remise en cause de son métier. Valérie Rohard l'avait expliqué aux Assises du journalisme l'an dernier, que justement, c'est intéressant de se poser des questions sur comment je travaille, comment j'écris, comment j'interviewe les gens, et qu'est-ce que je restitue derrière comme message, comme information. Donc les résidences se sont multipliées. Je ne sais pas si elles ont toutes trouvé preneur.
Il me semble qu'il y en avait une à Tours, en fait, qui était liée avec le PJT et Wanted TV, c'est ça ? Il me semble qu'il y avait un projet qui avait été monté comme ça. Alors, il faudrait retrouver...
C'est possible.
Faudrait avis aux auditeurs sur le site des Assises. Je pense qu'on retrouvera facilement le nom de la journaliste. J'ai un peu honte, je ne m'en souviens pas. Et vous, d'ailleurs, est-ce que ça vous plairait de partir en résidence, si vous pouviez le faire ? Et où et pourquoi ?
Si j'en avais le temps, la disponibilité et l'énergie, j'essaierais de le faire dans un endroit que je ne connais pas. En France, mais pas... Ou s'impliquer dans un média étranger, mais plutôt francophone, parce que la langue est quand même importante. Pourquoi pas, mais il faudrait avoir du temps disponible pour ça.
Et oui, le temps, c'est quand même le facteur déterminant.
Oui.
Avec tout ce que vous nous dites depuis le début de cette émission. Et justement, ce dispositif, est-ce qu'il permet ou permettrait de recevoir des journalistes francophones, donc évidemment qui ne viennent pas de France, mais voilà, avec l'idée de donner à voir une autre réalité du métier de journaliste et peut-être une autre idée aussi de la liberté de la presse ?
Bien sûr, je pense que c'est... Les Assises le permettent de manière très saupoudrée. Hein, on a chaque année des petites expériences, des petits partages. Depuis 2 ans, on accueille chaque année des journalistes québécois qui viennent aux Assises, mais qui viennent aussi à la Nouvelle République pour partager un petit peu notre expérience et comment on travaille. Et ceux qu'on a reçus cette année avaient beaucoup d'années d'expérience derrière eux et ils seraient tout à fait susceptibles d'intégrer ce dispositif. Mais là aussi, eux, ont-ils le loisir et le temps de pouvoir partir 4-6 mois du Québec et après avoir l'assurance de reprendre un travail. C'est aussi ça la question dans ce milieu journaliste qui est de plus en plus précaire, il faut quand même aussi le dire.
Alors je rappelle aussi que ces résidences ont pour vocation de venir en soutien à des projets portés par des territoires afin de, je cite, « qualifier les productions existantes ou développer de nouveaux projets éditoriaux en favorisant des partenariats entre médias de proximité et médias professionnels intéressés qu'ils soient locaux ou nationaux, aider à la structuration et à la professionnalisation de démarches de médias de proximité, mettre en place des actions d'éducation aux médias et à l'information auprès des publics mobilisés dans des nouveaux projets éditoriaux ou de médias de proximité, mettre en œuvre des actions d'éducation aux médias et à l'information à destination des jeunes. Donc voilà que les médias de proximité entrent en scène, donc peut-être qu'ils sont là aussi finalement.
Oui, mais ça n'a rien de vacances, hein. Ce sont vraiment des implications avec les acteurs éducatifs sur place et associatifs aussi, parce qu'on peut tout à fait concevoir, comme ça avait été le cas pour Valérie Rohard dans l'agglomération de Dunkerque, qu'il y a aussi des missions locales, des associations, des relais qui justement s'impliquent et sont tout à fait ravis d'avoir l'appui d'un professionnel pour, par exemple, lancer une radio, un journal ou faire une publication, ne serait-ce que ponctuelle, mais avoir une approche journalistique.
Alors voilà, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est aussi, puisqu'il y a des médias, par exemple sur le Sanitas, il y a le Sanitamtam, qui est un blog qui est proposé par Malvina Balms, mais avec les habitants du quartier. Et du coup, de se dire, est-ce qu'on pourrait... Il y a donc Wanted TV aussi, donc c'est sur la télé. Et de se dire, bah oui, il y a des radios associatives locales, hein, par exemple Radio Béton, Radio Campus. Et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer finalement ce type de résidence, d'avoir un professionnel qui pourrait travailler avec les jeunes sur un quartier, avec différents médias.
Je pense que c'est pas antinomique, au contraire. Dès l'instant où il y a une initiative qui s'organise autour d'un territoire, le territoire doit faire un petit peu l'inventaire de tout ce qui existe et du potentiel qu'il y a à avoir des missions précises pour ce professionnel qui vient donner de son temps et de son expérience.
Par contre, peut-être que c'est compliqué aussi de trouver quelqu'un qui soit à l'aise sur plusieurs supports.
Ah oui, bien sûr. Mais bon, je pense que le côté bimédia de quasiment tous les journalistes aujourd'hui pourra avoir les deux débouchés écrits et numériques. Au-delà, pour avoir la radio, il faut peut-être aussi avoir d'autres qualifications et d'autres expériences.
Et c'est vrai qu'il y a évidemment le web, le papier, la radio, mais il y a aussi l'image.
Mm-hmm.
Et que ce soit de l'image fixe ou de l'image en mouvement, et du coup, ça rajoute encore... des possibles. Et est-ce que ça vous semble devenir quelque chose, pas d'obligatoire, mais de plus en plus recherché chez les jeunes journalistes, de savoir utiliser le plus de supports possibles?
Mais ça fait partie de leur formation. Il est évident qu'en cours d'études, on se spécialise un peu plus, mais je dirais que la polyvalence et le multimédia est un des atouts pour une insertion après une formation de journaliste. Après, on peut avoir des profils hyper spécialisés qui trouveront aussi un débouché, mais savoir manipuler un petit peu tous ces supports et s'y intégrer rapidement est un gage effectivement d'insertion.
Est-ce que c'est pas même une évidence maintenant, en fait, de savoir manier tous ces outils, sachant que pour les gens qui sont nés après nous, l'un comme l'autre, en fait, ils sont nés déjà dans ces idées d'accès facile à tous ces supports.
C'est ce qu'on appelait les digital natives, c'est
oui.
Ça hein.
Voilà, et donc finalement, même pour eux, ça va être tellement évident d'utiliser tous ces supports.
Oui. Oui, je pense que... Mais après, on peut en avoir une connaissance juste usuelle, mais après, c'est autre chose que de savoir les utiliser pour les transmettre. Donc il faut les maîtriser d'autant plus.
Est-ce qu'il y a un âge limite pour faire de l'éducation aux médias? Est-ce qu'il y a un moment où on devient vieux? Est-ce qu'on est trop vieux pour faire de l'éducation?
Non, je crois que c'est dès l'instant où on sent que la part de jeunesse qu'on a en soi est définitivement éteinte, là je crois qu'il faut s'arrêter. Mais non, moi je travaille notamment pour le journal des lycées avec des collègues qui sont à la retraite, un petit peu partout en France, et ça se passe très bien, et on n'est pas forcément des vieux cons. On a des pratiques qui peuvent être... notamment sur l'orthographe, extrêmement pointilleuse par rapport aux exigences d'aujourd'hui, mais on s'adapte tout à fait au support, au langage, aux envies d'expression et de journalisme des jeunes.
Mais d'ailleurs, à mon avis, c'est quelque chose de précieux, c'est pas bien, je donne mon avis, mais cette idée d'être en capacité de travailler avec des gens d'âge différent et de savoir s'adresser aussi à,
oui,
des gens d'âge différent.
Mais justement, c'est moi qui fais le grand écart, on va dire, entre le courrier des personnes, de nos lecteurs les plus âgés, dont certains écrivent encore de manière manuscrite, et les jeunes lycéens qui partagent ce courrier une fois par mois, l'idée que ces jeunes sont forcément en décalage avec tout ça n'est pas forcément vrai. Hein, ils vivent aussi dans un monde pluriel, et avoir plusieurs supports à leur disposition leur implique aussi de savoir bien les utiliser, d'aller les chercher, et puis savoir aussi que on va toucher les parents, les grands-parents avec le support papier, et puis les copains avec le support numérique.
Et avant de laisser la place à l'agenda culturel, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un souvenir d'un courrier des lecteurs qui vous aurait particulièrement marqué parce qu'il était drôle ou pas du tout ?
Comme ça, brûle pour point, non, ça ne me revient pas.
Vous n'avez pas d'idée de courrier de lecteur ? Bon.
Non.
tant pis. Alors,
par contre, si j'ai un souvenir de courrier de lecteur, de jeune lecteur, d'une jeune élève de première qui s'appelle Marie-Gabrielle et qui aujourd'hui fait des études de droit à Paris, et qui m'avait fait un texte tellement bon, tellement bien troussé, comme on dit, en langage châtier, que je ne pouvais décemment pas le couper dans les 20 lignes que je lui avais octroyées au départ. Donc j'ai dû mettre un extrait et dire, si vous voulez lire la suite, allez sur le site internet. Donc, et juste pour dire que parfois, les contingences de lignage sont contraignantes et qu'on peut avoir quelque chose d'excellent qui mérite le temps d'être lu, mais encore faut-il qu'il soit vraiment bien écrit.
Merci Christophe Boutin. On va écouter Julie pour l'agenda culturel. C'est déjà l'heure. Bonsoir Julie.
Bonsoir Mélissa.
Alors, comment vas-tu ?
Très bien, comme un vendredi, et toi ?
Comme un vendredi, oui, on dit ça toutes les semaines, mais c'est vrai que vendredi, on est toujours très contente parce qu'en plus, il fait beau. Alors, nous allons t'écouter pour l'agenda culturel. C'est parti.
Ce soir, c'est bien sûr l'ouverture de la guinguette au pied du pont Wilson. Au programme de cette période estivale, d'abord boire un verre au bord de l'eau, mais il y aura également aussi des spectacles, des concerts, de la danse et des ateliers. À cette occasion, le festival Terre du Son vous invite à une grande journée de ramassage collectif des déchets sur les bords de Loire. Le rendez-vous est samedi 12 mai à 14h à la Guinguette. Et au programme concert, DJ set, animation et bien sûr collecte des déchets entre le pont Napoléon et le pont de Fil et l'île Simon avec les bateaux de bois traditionnels de l'association Bout à Vent. N'hésitez pas à aller sur l'événement Facebook pour plus d'infos. Ne jetez rien, la Loire commence ici. Jusqu'au 13 mai, la foire de Tours s'installe au Parc des Expos avec plus de 700 exposants. Cette année, la foire de Tours met à l'honneur le Maroc avec au programme expo, démonstrations, concerts et spectacles, le tout aux couleurs du Maroc. Samedi 12 mai, les services civiques au Crous vous invitent à un atelier DIY Do It Yourself pour apprendre à fabriquer ses cosmétiques naturels soi-même. Le rendez-vous est donné à la résidence Grandmont de 15h à 17h ce samedi et l'atelier est gratuit. Samedi, rando nature et vin à la découverte de la biodiversité autour du village viticole de Panzou dans le Chinonnais. Au programme visite de la cave et dégustation de vins locaux en fin de journée, tarif de 15 à 20 euros. Samedi au cinéma studio, projection de Zéro Phyto 100% bio, un documentaire sur l'utilisation des pesticides et ses conséquences sur la santé et l'environnement. Alors que de nombreux maires, chefs de cuisine et jardiniers se sont engagés pour arrêter l'utilisation de pesticides dans l'entretien de l'espace public en introduisant du bio et du local dans les assiettes des cantines scolaires, c'est à travers un tour de France de ces belles initiatives que le documentaire vous emmène découvrir ces communes en transition. Projection samedi à 16h et dernière séance dimanche à 16h. Dimanche 13 mai, une boum sera organisée à la Guinguette avec au platine DJ Skiriel. Et enfin, dimanche à la place Rabelais, le petit Coconut Show, un brunch musical avec banjo et chant.
Eh bien, merci Julie, et puis bon week-end à toi.
Bon week-end à toi et bon week-end à tous.
Hadouk Trio sur Radio Campus Tour, Baldamore. Et cette émission Sortez, consacrée à l'éducation aux médias, touche déjà à sa fin. Merci à notre invité Christophe Boutin, journaliste à La Nouvelle République. Vous retrouverez bien sûr cette émission en podcast sur notre site radiocampustour.com et en rediffusion lundi à midi. Bon week-end à tous sur Radio Campus Tour.